aujourd'hui, nous ne sommes pas encore devant cette magnifique scène de Bethléem, si émouvante, si familiale, si chaleureuse. Aujourd'hui, il s'agit de tout autre chose. L'Évangile, nous venons de dire, a quelque chose de grandiose. Alors vous me direz, monsieur l'abbé, vous êtes gentil, grandiose, en réalité, sont toutes les scènes de l'Écriture. Parce que pas un mot de l'Écriture n'a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. En réalité, c'est toute la Bible qui est grandiose. Alors pourquoi ce passage plutôt qu'un autre? Je maintiens, il y a aujourd'hui quelque chose de grandiose. Pourquoi de grandiose? Parce que on a le sentiment que quelque chose de particulièrement grave, que quelque chose de particulièrement éminent est en train de se passer, d'où le ton solennel. Vous l'avez remarqué, qu'en quoi l'écrivain de cet évangile, je parlais de Saint-Luc. On a même un ton, j'allais dire, grandiloquent, quoique ça ne convienne pas trop à un écrit qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Vous voyez, d'emblée, nous avons le sentiment d'entendre ces aboyeurs, vous savez, ces huissiers de salons solennels dans lesquels on trouve toutes sortes de personnes du gratin, et ces aboyeurs, eh bien, font sonner clairement, très fort, le nom de chacun des dignitaires qu'ils introduisent dans le salon en question. Avec une voix de stentor, on entend l'évangéliste nous annoncer, eh bien, tout ce qui compte à l'époque dans cette chère terre de Palestine. Tout ce qui compte en fait d'autorité temporelle, parce qu'on nous parle d'abord, on pourrait omettre ce nom-là, on nous parle de l'empereur lui-même, Tibère César, c'est-à-dire une demi-divinité aux yeux de ses contemporains. On nous parle ensuite, pour continuer avec le trône, eh bien on nous parle du gouverneur, Ponce Pilate, on nous parle des trois tétrarques de Terre Sainte. Et en fait, d'autel, non plus du trône mais de l'autel, parce qu'on n'oublie pas à cette époque bénie, on n'oublie pas, vous voyez, les prêtres. C'était quand même une époque qui valait la peine d'être vécue tout de même. Eh bien, on avait pour l'autel deux grands prêtres, Anne et Caïphe, et Jean. Jean qui n'est pas n'importe qui. Jean qui, habillé qu'il est d'une peau de bête, mangeant des sauterelles, maigrichon et les yeux exaltés, je ne reviens pas dessus parce que deux années de suite, je vous ai déjà décrit le visage de cet homme ascétique. Ben, ce Jean qui est au désert, qui ne semble personne, il est le fils de Zacharie, de la classe d'Abia. Et il fait partie des castes sacerdotales. Et à l'époque, encore une fois, dans ce pays qui savait vivre et dans cette culture qui tout de même, quelles que soient ses déficiences, savait reconnaître la place des prêtres, eh bien Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui, c'était un fils de famille. Donc il est normal qu'il figure dans cette liste, dans ce bottin mondain, si vous voulez, des figures qu'on annonce au début de cet évangile. Mais il y a plus dans ce texte. Il y a plus solennel encore que toutes ces figures dont finalement l'histoire a retenu toutes sortes de turpitudes. Car enfin, l'empereur Tibère César n'était pas quelqu'un de particulièrement recommandable. Parce que Ponce Pilate n'a pas fait preuve pour un militaire de beaucoup de courage. Parce que ces grands prêtres d'Anne et Caïphe, ces tétrarques, on n'en a rien retenu finalement. Sinon quelques exactions. Parmi lesquels la condamnation du Fils de Dieu lui-même, voyez. Donc, en réalité, ce qu'il y a de solennel dans cet évangile dépasse totalement ces figures politiques et religieuses qui menaient la vie à l'époque et menaient grand train. Ce dont je veux parler, et qui est tout à fait solennel dans cet évangile, ce sont ces phrases. La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La parole de Dieu, la voix de Dieu, ça vous rappelle rien? Genèse 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et au commencement Dieu dit. Et 6 jours de suite, Dieu dit. C'est la voix de Dieu, la parole de Dieu créatrice qu'il faut reconnaître dans cette voix qui parle à Jean-Baptiste au désert. Un autre endroit encore? Le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Vous voyez que quand on parle de la voix de Dieu, quand on parle de cette voix qui parle aux oreilles du Baptiste et qui par la bouche du Baptiste crie dans le désert, on fait allusion à rien moins que Dieu, le Créateur lui-même. Alors pardon, toutes ces petites figures de pacotis, ces roitelets et autres grands prêtres qui règnent à deux, alors qu'en réalité il n'en faudrait qu'un, selon la loi, ne sont pas grand-chose, vous voyez, par rapport à cette solennelle proclamation de la parole même de Dieu. Il y a dans cet évangile d'aujourd'hui un rapprochement qui peut-être ne se fait pas à la première lecture, mais qui, quand on scrute à nouveau ce texte, est évident. Vous voyez ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il s'agit, par la bouche de Jean-Baptiste, de procéder à un recommencement. Voilà ce que Dieu fait, une recréation. De même qu'au début des temps, à la création du monde, Dieu crée par sa parole, de même à l'époque du Baptiste, dans cette histoire-là, où les hommes sont pécheurs, avec Tibère et avec les grands prêtres, totalement en deçà des charges glorieuses qui leur sont confiées, on a une recréation. Voilà ce que le Baptiste annonce à ce peuple. Il crie dans le désert, on l'écoute peut-être pas beaucoup, mais enfin, il annonce rien moins qu'une recréation. Dieu qui a tout créé va recréer. Voilà pourquoi ce terme de voix, ce terme de parole de Dieu n'est absolument pas employé de manière anodine par Saint-Luc. Il renvoie très clairement à cette première création. Et quel est ce nouveau commencement? Quel est ce nouveau départ? Quelle est cette recréation voulue par Dieu? Et comment est-ce qu'elle va s'opérer? Est-ce qu'il s'agit de rayer de la carte cette création, cette première création qui aurait pourri de l'intérieur du fait du péché? Est-ce qu'il s'agit de réduire à néant ce que Dieu s'est donné la peine de tirer du néant? Évidemment non, j'y ai insisté à plusieurs reprises ici, et puis vous ne l'avez pas attendu pour cela, parce qu'on vous l'a dit et redit en cours de catéchisme, le Dieu qui crée doit, par sa sagesse éternelle, en toute cohérence, de ne pas réduire à néant ce qu'il a lui-même créé. Vous voyez ? Il se doit en justice, disons, c'est un peu étrange que Dieu se doive des choses en justice, on n'est pas dans une pure logique formelle, mais... Et Dieu se doit en justice de maintenir dans l'existence ce qu'il a tiré du néant. Donc, il ne s'agit pas de réduire à néant, pas plus qu'il ne s'agira à la fin du monde de détruire Satan, on entend parfois ça. Ce sont des thèses erronées qui viennent des hérésies des premiers siècles. Dieu maintiendra dans l'être tous les damnés. Il n'y aura pas d'apocatastase, il n'y aura pas de destruction de l'enfer à la fin des temps. Non, tout restera en l'état, parce que tout, jusqu'aux damnés et jusqu'à Satan compris, manifesteront, sur un mode voilé, mais sur, en réalité tout de même, la gloire de Dieu. Toutes ces créatures, y compris les créatures damnées, manifesteront la gloire de Dieu. Donc, non, vraiment, cette recréation ne consiste pas en une réduction à néant de ce que Dieu a lui-même fait. Du reste, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, et en ces temps immédiatement préparatoires à Noël, j'espère que vous allez vous plonger dans les évangiles de l'enfance, pour aller voir ces généalogies chez Saint-Luc et chez Saint-Matthieu. Que voit-on dans les ascendants de Jésus via Joseph, vous direz donc. C'est putatif. Ouf, le Seigneur est sauf, l'honneur est sauf. Le Seigneur n'a pas dans son sang, par la voix de Marie, il a bien les pécheurs dans ses ascendants, qui ne nous sont pas cités si on tient que Marie n'est pas descendante de David, mais que c'est son père Joseph seul. Peu importe, laissons-la l'exégèse et venons-en au fait. Jésus accepte de passer aux yeux de ses contemporains pour un descendant de pécheur. Autrement dit, Jésus accepte de descendre de qui? Mais de Catin, parce que c'est le cas. Les femmes qui sont citées dans la généalogie du Christ n'ont rien de ces Esther, Judith et autres filles de Sion qui font la gloire de leur peuple. Ce sont des femmes, ce sont des traînées. Et le Seigneur Jésus assume ces traînées. De même que le Seigneur Jésus assume cette descendance de David. Qu'a-t-il fait David? Il a envoyé Uri le Hittite en première ligne pour piquer sa femme. Il accepte de descendre de Salomon. Qu'a-t-il fait Salomon? Mais il a vénéré tous les dieux de ces bonnes femmes qu'il faisait mettre dans son harem. Et le Seigneur Jésus d'assumer tout cela. Vous voyez qu'encore une fois, la logique divine ne consiste pas à rayer de la carte tout ce qui était jusqu'à maintenant, parce que, ma foi, les choses ont mal évolué, du moins pas au gré de Dieu. On va recommencer, tabula rasa, et enfin, les choses vont se passer comme je le veux. Pas du tout. Dieu est assez puissant, Dieu est assez fort pour reprendre les choses et pour faire infléchir le cours des choses de sorte que ses plans n'échouent pas. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez, c'est ce qu'on doit entendre par ce nouveau commencement, cette voix qui crie dans le désert. Effectivement, le désert, c'est le lieu initial où rien n'était. Ce lieu du tohu-bohu, qui est interprété par les exégètes comme un lieu de désert. Dans ce nouveau désert de l'époque de Saint Jean-Baptiste, où Saint Jean-Baptiste crie et annonce la bonne nouvelle, mais c'est enfin un désert où il ne s'agit pas, encore une fois, de raser tout ce qui existait à l'époque contemporaine du Baptiste, dans ce nouveau désert, Dieu, par sa parole, va recréer les choses, reprendre à leur commencement toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est une deuxième chance qui est laissée à la création. Et c'est exactement ce qui se passe avec la naissance de Jésus, que nous aurons la chance de célébrer demain soir. Le Seigneur Jésus, qu'est-il? Sinon, là, on nous dit dans les antiennes préparatoires à Noël, cette magnifique phrase, « Aux racines de Jessé ». Vous voyez, Jésus est la branche qui vient se greffer. Jessé, c'était le père de David. Et Jésus vient se greffer comme une branche absolument neuve, absolument pure de toute corruption sur cet arbre qui, ma foi, depuis des générations et des générations, a accumulé lichen et impureté. Et de ce qui est fabuleux, c'est qu'à la différence de ce que peuvent penser les botanistes, eh bien, cette branche va irriguer la totalité de l'arbre de Jessé. C'est-à-dire que Jésus, au contact de la nature humaine, dès sa venue dans la chair, déjà dans le sein de sa mère, mais plus encore dans la crèche, que fait-il? D'ores et déjà, il recrée toutes choses. Par le contact du Verbe éternel à la nature humaine qu'il porte en sa personne de Jésus-Christ, voilà que l'œuvre recréatrice est initiée par le jour de la solennité de l'Annonciation, commence la gestation de Jésus dans le ventre de sa mère, et plus encore, enfin en tout cas aux yeux du public, le jour de Noël, dans la nuit de Noël. Voilà ce que nous devons lire dans l'évangile d'aujourd'hui. Je récapitule et je m'arrête là, comme promis, parce que là je prends vraiment du temps et du temps, je m'en veux. Voilà, mais je voulais aujourd'hui souligner donc la solennité de cet événement que Saint Jean-Baptiste vient annoncer. Saint Jean-Baptiste vient annoncer quoi? Un nouveau commencement. Et tout dans l'évangile de Saint Luc est mis en parallèle avec le commencement dont on nous parle dans le livre de la Genèse. Tout recommence avec celui qui est l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ. Mes frères, méditez ces paroles, méditez cet évangile, je vous en supplie, parce que nous n'avons pas d'autre chose à faire à la veille de Noël. Basta les cadeaux, basta l'arbre de Noël. Tout est fait, tout est prêt. Voilà, préparez donc vos cœurs. Et préparez vos cœurs avec quoi? Avec la parole même de Dieu. Voilà, écoutez le Baptiste qui vous dit ce qui va se passer demain et soyez émerveillés par ce que nous annonce Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.